Top Info, l'essentiel de l'actualité, un service du Top Chrétien. Seul notre silence peut en faire des monstres. Bruno Leroy, correspondant au Pifo.fr. Il y a des parents qui ont l'apparence de la normalité et se cachent derrière. Ce sont par exemple d'anciens enfants maltraités. Par nature, dans la plupart des cas, ils montrent peu d'affect, une rigidité affective, avec des traits de comportement obsessionnel. Ces parents ont une forte emprise sur l'enfant. Et une mauvaise image d'eux-mêmes, liée à un passé de frustration et de carence profonde. Ils montrent une grande intolérance à la frustration, et vivent souvent se replier sur eux-mêmes, isolés et sans amis. C'est à la naissance de l'enfant, que ressurgit ce passé. Ils peuvent s'identifier à de bonnes images parentales. Si la grossesse est désirée, l'enfant est investi d'un pouvoir de réparation, il doit combler le vide, le manque d'amour des parents. Dans ce contexte, le moindre problème vécu par l'enfant, est vécu comme une persécution. Il le fait exprès. En fait, il se sent mauvais et projette cela sur l'enfant. C'est lui qui est mauvais. L'enfant devient ainsi l'image vivante et permanente de leur échec, et les mauvais traitements servent à faire disparaître cette image. Derrière cette apparence de normalité, il y a aussi les paranoïaques pour lesquels l'enfant devient l'objet de leur toute-puissance destructrice, et les pervers qui trouvent leur jouissance dans la souffrance de l'autre. Il y a encore les cas sociaux, familles chaotiques à problèmes multiples. Souvent isolés de leur famille jeune, ils ne peuvent se projeter dans l'avenir. Les grossesses ne sont pas désirées et l'enfant doit ici aussi combler un vide. On rêve que lorsqu'il sera là, tout ira mieux. Quand il arrive, c'est une bouche de plus à nourrir. L'enfant peut être marqué dès le départ, enfant adultérin ou handicapé, hyper investi par la mère. Le père ne le supporte pas. S'il a une petite malformation, cela peut paraître énorme à certains parents. Ces enfants vivent ce petit handicap comme la preuve de leur incapacité à faire quoi que ce soit de bon. Ce peut être un enfant issu d'une première union, un enfant de remplacement arrivant après un deuil, ou un enfant ressemblant à quelqu'un que l'on tait. Nous sommes tous responsables de la maltraitance de ces enfants. Les bribes psychopathologiques, que je viens d'évoquer et qui sont les plus représentatives, doivent être traitées à la racine, puisque nous en connaissons désormais les causes. Pourquoi tant de silence face à ces situations de violence sur enfants? Il faut ajouter les violences par omission, carences qui peuvent être responsables de dénutrition, voire de mort d'enfants, carences affectives qui peuvent avoir des répercussions dramatiques, hospitalisme, mauvais traitements psychologiques tels que sadisme verbal, humiliation, dévalorisation, exigences éducatives inadaptées à l'âge de l'enfant, rejet, mise à l'écart. Lorsque nous sommes témoins de tels manques destructeurs, nous devons nous sentir concernés, et mettre en accusation les personnes pratiquant de tels sévices. Il ne s'agit nullement de juger les humains, qui projettent leurs propres souffrances mais, de venir en aide à toute une famille, qui ne sait pas au plus où sont ses repères. Notre conscience chrétienne exige que la majorité, ne se taise plus par souci de tranquillité. Les enfants du présent, sont les sociétés du futur proche. Il nous suffit de parler de ces actes moralement réprobateurs, pour que des psychologues, ou des éducateurs, soient nommés par un juge, afin de mettre en place une rupture de ces schémas aliénants, et qui risquent de se répercuter dans l'avenir. Les enfants maltraités ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas coupables des gestes de leurs proches car, souvent ils s'imaginent que les violences commises ne sont que des sanctions de leur comportement atypique. Seule, une rupture définitive du silence leur fera comprendre qu'ils existent aux yeux de la société et que leur vie n'est pas un désert mortifère. Il en va de notre volonté de changer le devenir de l'humanité, et notre foi en Christ doit nous pousser à rompre tout ce silence qui humilie l'être humain dans ses fragilités. Nous sommes trop souvent des complices involontaires, quand la peur nous gagne et pourtant, au nom de l'amour de Dieu, nous devons sauver et honorer toute vie. L'affaire du trou devrait nous redonner l'esprit audacieux, mais sans haine qui hurle en nous et agit pour que cela ne se produise plus jamais. Seul, notre silence peut tuer leur humanité et en faire des monstres.